Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence tout de suite, Thibaut, avec le débordement du jour.
Hier soir, Brésil et Tunisie s'affrontaient au Parc des Princes en match amical, rencontre marquée par un jet de banane sur le Brésilien Richarlison. Un geste d'une autre époque, dénonce Thiago Silva. Des bouteilles, des gobelets, des briquets ont également atterri sur la pelouse. En début de rencontre, c'est l'hymne brésilien qui a été sifflé, provoquant l'agacement des joueurs de la Seleção.
Et c'est assez dingue parce que moi j'étais juste à côté du Parc des Princes hier avant le match et c'était hyper sympa. Il y avait les Tunisiens avec les Brésiliens, tout le monde se mélangeait. Franchement, atmosphère hyper festive, bon enfant, et enfin, il suffit d'un crétin pour faire pour gâcher ça, quoi.
Et qu'il y a du racisme dans toutes les communautés. Ah, bon, le racisme n'est pas l'apanage des blancs, comme on dit, quoi. Voilà, c'est dans tout, et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'était quand même c'est l'équipe de Tunisie. Il y a beaucoup de gens d'origine tunisienne en France. C'était une chance absolue de voir jouer le Brésil.
Au stade,
bah oui, mais c'est génial. Tu vois jouer le Brésil.
L'ambiance, elle était top.
L'équipe de ton pays d'origine qui joue face à l'équipe mythique du football mondial historique. Et il y a un connard qui gâche tout.
Ça gâche tout, Fatima. Sur
la personne ciblée était noire, c'est ça?
Oui, c'est un
Brésilien. Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que ça n'a pas un symbole fort. C'est-à-dire que quand on jette une banane, bien évidemment que on charrie toute l'idéologie négrophobe. Donc, que ce soit l'impérialisme blanc ou l'impérialisme arabo-musulman, ce sont deux impérialismes qui ont produit de la négrophobie structurelle. Et donc, c'est pas juste un crétin. C'est une négrophobie qui est le produit d'une histoire.
C'est pas l'ensemble des supporters tunisiens. C'est un crétin qui a jeté une banane.
Je dis juste que quand tu dis que c'est un geste abstrait, que les uns et les autres se le jettent.
J'ai pas l'impression que c'est abstrait.
Voilà. C'est en tout cas, c'est quoi le mot que tu as utilisé juste?
L'apanage
des peuples qui ont mis en esclavage des personnes noires parce qu'elles étaient noires.
Les premiers noirs, puisque en 1850, un Africain sur quatre était l'esclave d'un autre Africain.
Non, mais après, est-ce que ce crétin a jeté une banane parce que c'est un objet, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été jetés sur la pelouse, ou parce que c'est une banane avec l'idée de je vais jeter une banane? C'est ça, en fait.
On ne sait pas, mais
c'est ça, le problème,
droite,
il est là.
On le sait. Par exemple, quand le journal Minute avait montré comment s'appelle Taubira en mettant elle a la banane et en la montrant comme un singe.
Ouais, bon, on voit que c'est raciste.
C'est idéologique. Quand une élue du Rassemblement National, puisqu'on en parlait tout à l'heure, demandé à ses enfants de jeter une banane sur toujours la même Christiane Taubira.
Oui, mais c'est raciste, ça, c'est sûr, c'est avéré.
Là,
tu vois,
effectivement, on peut pas le savoir. Maintenant, ne mettons pas sous le tapis la question d'une négrophobie qui existe aussi dans le monde arabe. Je suis bien placée pour le savoir étant marocaine. Et donc, c'est possible. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est fortement possible.
Faut punir sévèrement ce supporter, Pierre-Edouard.
Je veux dire, d'abord, les actes. J'aime bien rappeler que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit.
Bah, bien sûr.
Déjà, on a des problèmes. Face à un connard raciste, faut d'abord, évidemment, et condamner et aussi mépriser l'acte au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est un acte méprisable, il doit être méprisé. Et le supporter en question, il faut lui mettre un coup de pied aux fesses et le faire sortir. Je veux dire qu'à un moment, quand le jeu, j'allais dire presque les jeux du cirque, enfin, quand le jeu devient des jeux du cirque, révèle ce qu'il y a de pire chez certains d'entre nous, hélas, il faut effectivement les sortir. Parce que là encore, du coup, on crée des amalgames. Quand on n'est pas, moi, je ne fréquente pas beaucoup les stades de foot, je suis entouré par les familles nombreuses, j'ai un certain nombre de supporters de moi, mais peu. C'est vrai que ça donne en plus une image du monde des supporters. Il ne faut jamais généraliser, pas plus chez les supporters que chez les autres, mais ça donne une image absolument déplorable. Ah, et ça donne surtout tout sauf l'envie d'aller pour la première fois de sa vie regarder un match de foot. Moi qui n'y suis jamais allé, ou d'emmener ses enfants, et j'ai peut-être tort, parce que, évidemment, je suis avec assez de recul pour ne pas assimiler tout ça, mais c'est vrai que finalement, quand on voit ça, et on se dit que quand même, il y a un combat effectivement mené, on parle aussi d'associations, on parle de tournants dans les stades, etc. Il y a quand même un vrai sujet sur le fait que là, on a le collectif qui n'est pas, pourtant, je suis plutôt un défenseur du collectif. Là, on a souvent les faces sombres du collectif, et il faut évidemment y mettre de l'ordre, quels que soient les motifs et les histoires qui sont aujourd'hui inacceptables. On en entend quand on parle du PSG, on parle de Marseille, les grands clubs évidemment, mais en même temps, on entend aussi parler de choses, y compris dans le foot amateur, hein, où on a des fois
l'idée hier, c'était la fête au Parc des Princes, la fête, elle est gâchée, quoi.
Il y a un imbécile qui jette une banane, mais enfin, il y en a des milliers qui sifflent l'hymne de l'autre équipe. L'hymne brésilien. Donc, ça aussi, c'est une forme de xénophobie.
Oui. On va passer à la série du jour. Elle est très attendue, Thibaut.
Pas par moi. Netflix confirme le lancement d'une série fictive inspirée de la vie de Rocco Siffredi, série de 7 épisodes baptisée Super Sexe, dont le tournage a débuté à Rome. Elle se concentrera sur les origines de la star du X des années 90 et de sa relation à l'amour afin de comprendre ce qui l'a amené à tourner plus de 1500 films pour adultes dans sa carrière. L'acteur italien sera interprété par Alessandro Borghi, scénarisé par Francesca Manieri, qui se présente comme une militante féministe. La série sera disponible sur la plateforme en 2023.
Fatima, vous allez regarder ?
On est dans un moment où on est enfin en train de d'assumer une critique de la pornographie, d'assumer que souvent l'industrie pornographique a été une industrie de trafic d'êtres humains, d'organisation de viols filmés,
d'asservissement,
sans parler de l'impact que ça a sur les personnes qui les ont vues, en plus qui les ont vues en étant très très jeunes. Donc autant la thématique m'est détestable, ce personnage de Rocco Siffredi, dont je me souviens d'ailleurs qu'il avait été jusqu'à commettre une agression sexuelle en direct sur un plateau, sur la chroniqueuse Cécile Minibunis, qui n'avait pas été beaucoup soutenue à l'époque, on l'avait encore une fois, elle, traitée de coincée. Donc moi, qu'on documente des personnages et une thématique, il n'y a aucun problème avec ça. J'espère qu'on le documentera, non pas en essayant de tisser des lauriers, mais bien de parler de la violence de ce monde et des personnages qui l'ont fait vivre.
Alors, a priori, c'est une scénariste qui est militante féministe, donc ça devrait plutôt aller... dans votre sens, mais vous voyez ce que je veux dire.
Le mouvement féministe, c'est un mouvement intellectuel qui a plusieurs, tout simplement plusieurs écoles, plusieurs productions théoriques. Nous ne sommes pas toutes d'accord, bien entendu, c'est comme tous les mouvements. Et parfois, il y a une certaine frange de militantes féministes qui performent la violence et qui disent qu'au final, une femme forte, une vraie femme, ne devrait pas se laisser intimider par des spectacles de violence misogyne. Et ce n'est pas, en tout cas, ma position.
C'est vraiment le moment pour faire ça, Fred Hermel.
Sincèrement, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas la regarder, cette série, quoi. Il y a tellement de belles choses dans la vie. Franchement, je ne pense pas que Rocco Siffredi soit un héros des temps modernes.
Non, mais c'est pas un héros. Après, sur Netflix, il n'y a pas que des héros. Là, la série qui cartonne, c'est un serial killer. Donc,
sincèrement, la vie de Rocco Siffredi ne m'intéresse pas. Donc, de savoir d'où vient Rocco Siffredi, je m'en fiche, quoi. Donc, je ne vais pas regarder.
Pierre-Edouard, vous non plus?
Alors, je ne pense pas. J'ai envie de vous dire, voilà, effectivement, je rejoins ce que dit Fatima sur le fait que la pornographie est en train de redevenir un sujet, et surtout un sujet, en termes, je dirais, un sujet public, sur notamment l'accessibilité à la pornographie, qui est un vrai problème, sur le fait qu'effectivement l'accessibilité est un outil d'asservissement. Et alors là, je dirais, beaucoup de militantes féministes, depuis de nombreuses années, ont défilé sur la thématique « Le corps des femmes n'est pas une marchandise », pour le coup, dans la pornographie. Alors là, je pense que personne ne peut débattre sur le fait que le corps de la femme est ramené au rang de marchandise, et encore, des fois, on est même en dessous de la marchandise. Donc, évidemment qu'il y a un vrai sujet, que personne ne fait ça par choix. Après, c'est aussi un sujet qui doit... Ça va être intéressant de voir comment c'est traité, parce qu'en même temps, je ne sais pas s'il a donné son accord, mais s'il a donné son accord, on a du mal à imaginer d'avoir affaire, du coup, à l'orientation que pourrait souhaiter Fatima. Et en même temps, effectivement, si on nous explique que c'est un artiste comme un autre qui fait vivre les corps, enfin, ça peut... Je crains le pire. Alors, est-ce que ce sera juste nul? Est-ce que ce sera insupportable? Ou est-ce que ça va être finalement honnête et à charge?
C'est inspiré.
C'est inspiré. On verra bien.
On va la thématique quand même.
Et en plus, comment filmer la pornographie? Enfin, filmer de la pornographie sans en faire? Parce que, évidemment, je vois bien le côté aussi voyeur qui va attirer tout le monde. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'était le bon moment? C'est toujours le bon moment de faire du buzz et de l'argent. Et je pense que Netflix, c'est quand même son principal sujet. La preuve, on en parle. Si c'était j'imagine qu'il y a des acteurs ou des actrices X assez obscurs qu'on ne connaît pas, ça leur viendrait pas à l'idée de Rocco Siffredi. Ce qu'il a réussi, c'est
Rocco Siffredi, ça parle à tout le monde.
Et tout le monde connaît Rocco Siffredi. Même des gens qui vraiment n'en ont jamais vu de film porno, parce que, évidemment, tout le monde connaît les acteurs et les actrices porno, mais on n'en a jamais vu. C'est toujours le...
Oui.
Je connais.
Rocco Siffredi, moi, c'est le seul nom d'acteur porno que je connais.
Masculin, effectivement, et qui n'a pas été stigmatisé comme peuvent l'avoir été des femmes.
Il a même fait. On l'a même utilisé sur un ou deux films, j'allais dire classiques, alors qu'ils n'ont pas.
Catherine Breillat, notamment.
Je ne sais pas si ça a été un grand succès, mais.
Non, ça n'a pas été un succès. Les violences du jour.
Des échauffourées ont éclaté hier soir dans le quartier de Persaigne à Alençon dans l'Orne. Plusieurs dizaines de voitures ont été incendiées après des jets de cocktails Molotov. Certains véhicules ont été utilisés comme barrage pour empêcher l'intervention des policiers. Les pompiers ont dû attendre l'arrivée des forces de l'ordre pour intervenir. Selon Ouest France, des interpellations plus tôt dans la journée dans une affaire de drogue seraient à l'origine de ces débordements.
Et c'est vrai, Fred Hermel, on parlait hier de l'insécurité qui montait dans beaucoup de villes de France, mais là, Alençon dans l'Orne, alors là, typiquement, c'est quand même la ville paisible. On s'attendait pas à avoir des émeutes genre à Alençon, quoi.
Il n'y a plus de ville paisible en France, malheureusement. Et puis aussi la protection des délinquants par d'autres délinquants et la complicité de certains habitants. Voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne laisse pas la police faire son travail. C'est malheureux à dire, mais les territoires perdus de la République, ce n'est pas qu'un livre.
Mais là, c'est vrai qu'on se demande, Pierre-Édouard Magnan, que faire, quoi. Parce qu'on a l'impression que toutes les villes s'embrasent. Donc, il y a un moment.
Quand vous avez de plus en plus de précarité, que vous excluez de plus en plus de monde, ceux qui, derrière, organisent des trafics ont de plus en plus de main-d'œuvre. Parce qu'il y a un moment, nécessité fait loi. Voilà. Et donc, du coup, et en plus, vous parlez d'Alençon, effectivement, mais qui connaît un peu, qui suis normand, alors pas tout à fait du même secteur, puisqu'on est un peu Alençon, on l'imagine pas. Au demeurant, si j'étais un trafiquant de drogue, je pense que j'aimerais des endroits un peu tranquilles, un peu machin. Je suis pas sûr que j'irais m'installer comme trafiquant de drogue à Marseille. Enfin, c'est pas un projet d'avenir que j'ai. Par contre, alors, Alençon, mais en plus, vous êtes sur une plaine, vous êtes au milieu, vous êtes sur tout l'ouest, etc. Vous êtes dans la campagne, vous êtes moins emmerdé. J'imagine que la brigade des stupes à Alençon, c'est modeste.
C'est pas le 36, quoi.
Non, mais donc, du coup, il y a effectivement un lien. Mais derrière, c'est comment on revient dans les quartiers, comment on combat des délinquants et des trafiquants, qui sont d'ailleurs, souvent, on parle de drogue, on est même des criminels. Mais comment aussi on fait le travail? Et c'est pas pour dire que c'est à cause de la précarité qu'il y a des trafiquants de drogue. C'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que grâce à la précarité, grâce à l'exclusion économique, ces quelques-uns qui, eux, font fortune dans le trafic de drogue, ont d'autant plus de gens à exploiter, accompagner leur trafic.
Il y a des gamins de 15 ans qui sont des...
Un gamin de 15 ans qui rentre là-dedans.
Et qui gagne 300 euros par jour.
Un gamin de 15 ans, il n'a rien à faire la nuit, je veux dire.
Il y a une réalité en France, c'est que de la drogue, il y en a partout. Moi, ça fait des années que je vis en France, c'est rare que je ne sois pas dans une soirée où des personnes de toutes classes sociales confondues disent à un moment, tiens... je vais commander de la drogue, je vais appeler. Qui a le numéro d'un drogue
Moi, j'ai jamais vu ça.
En tout cas, on sait que la France, statistiquement, est l'un des pays où il y a le plus de consommateurs de drogue.
Ça, c'est.
Et du coup, comme il n'y a pas d'économie qui est admise, enfin, qui est légale, du coup, forcément, pour que toutes ces personnes, à un moment, aient le 06 d'un dealer, c'est qu'il y a une organisation illégale derrière et qui exploite, effectivement, parce que même si tu dis que les jeunes. Ils vont avoir ce qu'on appelle de l'argent facile. Mmh. N'oublions pas que ça reste des jeunes, qu'ils rentrent dans des réseaux qui sont dangereux, qui peuvent se retrouver dans ces échelles.
C'est l'horreur, bien sûr.
Et donc, c'est pour ça que je pense que la seule porte de sortie, c'est effectivement de légaliser, en fait.
Parce que tu vas légaliser le cannabis, mais pas les autres drogues. Donc, de toute façon, tu auras toujours des soucis.
Tu vas légaliser le crack, alors
Alors, cela dit, il est facile de cultiver du cannabis chez soi, fabriquer de la cocaïne ou de l'héroïne, ça demande déjà un petit peu plus de compétences. C'est-à-dire que vous réduisez quand même l'effet de masse, parce que faire de la cocaïne ou de l'héroïne, c'est pas tout à fait à la portée de prime. Cultiver du cannabis, il suffit, rappelez-vous Coluche, d'avoir un bac Riviera, mettez les graines dedans, puis vous attendez que ça pousse.
Mais vas-y, fais-nous un tuto aussi, bon, premier.
C'est un sketch sur YouTube, vous le trouverez. Oui. Il a 40 ans, plus.
J'entends bien. La plainte du jour.
La plainte du jour, une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre d'Elisabeth Borne ainsi que deux de ses ministres, Christophe Béchu et Clément Beaune. Elle a été déposée par deux associations devant la Cour de justice de la République. Elle dénonce le laxisme de l'État concernant les 180 000 ralentisseurs jugés non conformes sur l'ensemble du territoire. Selon leur avocat, ces ralentisseurs engendrent des problématiques sonores, des fissures dans certaines maisons et un impact sur la consommation des véhicules en matière de CO2.
Oui, il y a quand même peu de chances qu'Elisabeth Borne aille en prison quand même.
Oui, mais on en parlait tout à l'heure. La judiciarisation de la France, c'est le modèle américain et ça arrive partout. Maintenant, chacun aujourd'hui va avoir un avocat pour n'importe quoi, va vouloir porter plainte.
C'est plus pour le symbole peut-être.
Mais ça fait beaucoup de symboles.
180 000 ralentisseurs qui sont hors normes en France, c'est pas normal.
Mais
il y a un ralentisseur en France qui fait 60 cm de haut. Est-ce que tu imagines?
Mais là, déposer plainte contre la première ministre, en plus qui est là depuis quelques mois, c'est un peu ridicule.
Non, je suis pas d'accord, parce que ce qui soulevait tout à l'heure, c'était plutôt des citoyennes et des citoyens qui règlent directement leurs différends auprès de la justice. Là, on est plutôt, je pense, dans l'action coup de poing, c'est-à-dire dans l'action d'interpellation. Moi-même, j'avais fait ça avec mon association, on avait porté plainte contre l'État qui ne rendait pas publique la liste des entreprises qui ne respectaient pas l'égalité salariale femmes-hommes et qui n'avaient pas... À mon avis, en tout cas, on est plus à visée symbolique pour faire parler. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça atterrit dans Estelle Midi, plutôt que dans ce qu'il appelait, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la banalisation d'avoir recours à la justice.
Oui, mais enfin là, c'est pas l'État qui va te réparer ton ralentisseur.
Il est plus tellement le responsable des routes en plus.
Aujourd'hui,
la justice est une arme, c'est un outil d'action revendicative pour beaucoup d'organisations.
Et médiatique.
Et en plus, parce que c'est entre paradoxalement, c'est aussi une arme justement d'organisation, une arme du pauvre, parce que si vous voulez faire autant de bruit avec une plainte, avec une mobilisation dans la rue, il faut être capable de mobiliser des milliers et des milliers de personnes, ce qui est de plus en plus compliqué dans la société dans laquelle on vit, alors que la plainte à l'État, effectivement, s'il portait plainte contre les conseils départementaux qui gèrent la majorité des routes ce pays, on n'en parlerait sans doute pas ce matin, alors que contre Elisabeth Borne, ce qui n'a fondamentalement aucun sens, la plainte va être classée d'ailleurs.